ouvrir la parole de Dieu, l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 15, parler de la prière, mais une prière de Paul. Et comme elle est riche, riche en enseignements, vous allez le voir à la fin, pour nous faire comprendre certaines choses, Paul utilise un langage. Souvent, il a utilisé le langage de la nature, des fleurs, etc. Et c'est vrai que là aussi, dans ce domaine-là, eh bien, il nous donne de précieuses informations, parce que, je ne sais pas, vous vous sentez arrivé déjà, vous savez tout. Je pensais l'autre jour à ça, je dis, mais plus tu avances, au moins tu en sais. Ça fait drôle, hein? Je réfléchis à certaines choses, je dis, mais pourtant, mais oui, c'est vrai en plus. Tu le sais. Mais il faut un temps. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a encore besoin d'être enrichi. On a besoin d'être encore visité. Il nous faut aller nous aussi plus loin. Parce que Dieu le désire. Alors, Éphésiens chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps dont nous faisons partie, la plénitude de celui qui remplit tout dans tous. Alléluia. Beau programme. Alors, je parlais de la prière de Paul et c'est vrai, il est important d'étudier, pas là, mais les prières. La manière dont Paul s'est exprimé, ce qu'il a voulu dire. Nous, on survole les choses. Vous savez, c'est ça qui est... Hein, quand on, par exemple, on lit un événement particulier de la parole de Dieu, hop, il a demandé, ah, il a reçu, rapidement. Vous savez, quand vous allez à la montagne, ça monte. Quand vous êtes au sommet, vous dites « Oh, c'est pas loin, on y va !» Bien, entre-temps, il y aura certainement des vallées et encore des pics à monter ou à gravir pour arriver justement là où nous avions décidé d'aller parce que nous l'avons vu. C'était pas loin, mais ça a pris du temps. Et c'est un peu pareil avec la parole de Dieu. Nous, c'est facile pour nous, on lit « Regarde, il a demandé, ah, il a reçu, le Seigneur lui a répondu. » Comme c'est facile. Voyez ? Alors que, eh bien, on va le voir, il y a certaines choses que Dieu nous recommande. Il se sert d'homme, bien sûr, il se sert de Paul, là, bien sûr. Alors, en étudiant ce sujet de la prière, nous découvrons que la plupart des gens prient. Même ceux qui ne sont pas au milieu de nous, même ceux qui ne sont pas croyants, ils prient. À un moment donné, on les entend crier. Ah, ils ne veulent pas dire à Dieu, au ciel. Ou toi là-haut, s'il y a quelqu'un, vous voyez. Mais les gens prient. Alors pour la plupart, eh bien, nous-mêmes, nous nous sentons des fois incompétents et dans la prière. Nous sentons que, eh bien, on aimerait avoir les mots qu'il faut et on les trouve pas, ou alors le cœur qui va avec et quelque part on se cherche un peu. Et nous sommes également, eh bien, nombreux à désirer, je dirais, une aide dans la prière d'une manière pratique. Mais là, nous sommes un peu livrés à nous-mêmes. Alors la prière, ça peut être un cri au secours. Vous n'avez pas eu le temps de formuler quoi que ce soit. C'était un danger immédiat, imminent, quelque chose de grave. Il fallait qu'il y ait un cri qui sorte. Aie pitié de moi, Seigneur. Paf. Et des fois, on n'a même pas le temps de crier. Un frère, un jour, était dans la montagne. Plutôt, il venait nous retrouver au ski. Il montait, son pare-brise n'était pas très propre. Et puis, tout d'un coup, il n'a plus rien vu, mais il a senti que c'était bizarre. Finalement, comme il sentait que ça bougeait, il a arrêté la voiture, il est sorti, et quand il a été dehors, oh, la route, elle est là-haut. Vous vous rendez compte ? Philippe Pérez, je le nomme, parce que c'est lui. Tout simplement, il avait loupé le virage, il n'avait pas vu le virage, son pare-brise était pas propre, il y avait le soleil qui se levait, il avait droit dans les yeux, et il s'est retrouvé en contrebas. Je ne vous dis pas la journée qu'on a passée avec lui. Journée de ski, hein. Il était... Mais oui, parce que c'est magnifique, le Seigneur nous garde, et des fois notre insu, on ne sait pas. Des fois, il y a même des anges. C'est extraordinaire, hein, mais c'est cela. Hein. Alors, c'est certainement pour cela que les disciples, à un moment donné, parce que ce n'est pas facile la prière, on a besoin de faire des progrès, on a besoin d'être à la hauteur. Également, on va le voir, il faut être fervent, il faut persévérer, etc. etc. Alors, les disciples vont dire ceci, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et ce que Paul demande dans cette prière, c'est que les Éphésiens connaissent Dieu de façon plus réelle, plus personnel, plus intime. Amen. Il écrit et prie pour que des croyants qui ont déjà une certaine connaissance de Dieu, eh bien, aillent plus profondément, non seulement dans la connaissance, mais quelque part, allez, dans l'intimité avec lui. Et le mot grec traduit en français par connaissance est le mot épignosis. Il signifie connaissance précise et correcte, vraie connaissance. Alors ça veut dire, bien sûr, connaître profondément, personnellement, intimement le Seigneur. Amen. N'est-il pas notre Père ? Je pense que les enfants, ils connaissent leur Père, hein ? Eh oui. Alors, c'est pareil pour nous. Alors par exemple, je connais le président Macron. J'en vois qu'il faut... Mon épouse me dit, va pas trop loin, hein. Bon, là, elle ne le dit pas, mais elle me l'a dit à moi. Hein. Alors, je sais qui il est, je sais à quoi il ressemble. Si vous montrez une photo, je vous dirai tout de suite, instantanément, ça, c'est le président Macron. D'accord ? Je vais pas loin, tu vois. Mais, quand à le connaître personnellement, on ne s'est jamais rencontré. On ne s'est jamais adressé la parole. Donc finalement, je le connais sans le connaître. Je le vois à la télé, j'écoute ses discours. Voilà. Alors de la même manière, je peux dire, et là on change tout, je connais ma femme. Ah, qui c'est qui a dit pas pareil ? Eh oui, je connais ma femme. Et là, c'est une connaissance entièrement différente. Écoutez bien, après 47 ans de mariage, pas encore, hein, 47 ans de mariage, eh bien, je dis que c'est une connaissance plus profonde, intime, personnelle. Amen. Et là, c'est une vraie connaissance. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3, Paul dit, « Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. » Spirituel. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, je reviens à ce que je disais au début. Quand il prie, là, ce n'est pas pour demander. Hey, « Seigneur, donne-moi de nouvelles bénédictions. » Non, ce n'est pas ça. Et c'est étonnant. Parce que l'esprit qu'il y a dedans, ce n'est pas pareil. C'est plutôt « Seigneur, aide-moi ou aide-nous à réaliser les bénédictions que tu nous as déjà données. » Donner. Quelque part, c'est « Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. » On l'a chanté. « Ouvre mes yeux que je puisse voir. » Tu dis que je suis déjà béni, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. J'ai tout reçu. Et pourtant, je suis toujours en train de chercher, de demander. J'erre quelquefois, je fais demi-tour parce que je sens que je ne suis pas là au bon endroit, je ne suis pas comme il faut. Vous comprenez ? C'est ce que vous vivez aussi, non ? Dites-moi. Eh bien sûr, on est pareil. Hein. Alors là, il dit, Seigneur, aide-moi, c'est-à-dire ouvre-moi les yeux. C'est une prière formidable, hein ? Ouvre mes yeux, Seigneur. La demande formulée par Paul, c'est le connaître mieux. Au verset 16, il dit, « Je n'ai jamais cessé de remercier Dieu pour vous. Je prie constamment pour vous, demandant à Dieu de vous donner, et là il dit, de la sagesse. » Ça, c'est dans la version, je ne cherche pas, hein, la version livre de vie. Tantôt, je vais ailleurs, je cherche un petit peu dans les différentes versions, parce qu'il y a des éclairages. Et moi, j'aime bien être éclairé. Hein, j'aime bien, ouais, ça dit comme ça, dans la seconde dit comme ça, Darby dit comme ça, moi je cherche, voilà. Et puis à mesure, ben, je dis, tiens, ça c'est bien, ça me plaît. C'est facile à comprendre, hein, il y a un éclairage, voilà. Alors une première chose, c'est que Paul dit, je ne cesse de rendre grâce et de demander. Paul ne croyait pas qu'une fois qu'on a fait sa demande, eh bien il ne fallait pas la renouveler, ça il y croit pas. Il dit au contraire qu'il faut le faire. Alors, ce n'est pas la méthode Coué. Je suis guéri. Parce que je t'ai demandé, Seigneur. Hein. Ça, c'est la méthode Coué. Mais par contre, il renouvelait. Il renouvelait sa demande. Hein. Paul priait pour les Éphésiens. Il renouvelait sa requête encore, tant qu'ils n'ont pas été éclairés complètement. Tant qu'il n'y a pas cette lumière qui jaillit. Alléluia. Alors, il nous arrive de dire que puisque Dieu connaît tout, il connaît tout ce que nous disons même avant même que nous le disions. Formidable. Des fois, on s'abstient, on dit, oh, ben il sait tout. Pourquoi je lui demanderai, puisqu'il le sait. J'en ai besoin. Hein? Eh oui. Il sait également tout ce que nous pensons avant qu'on le pense. On va loin, là. Hein? Oh là là. Alors, nous n'avons pas besoin de recommencer. C'est fait une fois, c'est bon. Alors ça c'est faux, hein, c'est un faux raisonnement, car nous ne prions pas Dieu pour l'informer de quoi que ce soit, puisque justement il sait tout. Et c'est là que nous nous trompons. Hein. Si nous sommes enfants de Dieu, nous lui demandons, parce qu'il attend que nous le demandions, et à partir de là, eh bien, il va s'exprimer. Il veut voir également si on le veut absolument. Lui sait qu'on en a besoin, il sait que c'est nécessaire pour nous. Mais il veut que nous prenions conscience que nous avons besoin, quelque part, allez, je ne vais pas dire de faire des efforts terribles, mais de faire quelque chose, c'est-à-dire de persévérer, il faut que ça prenne forme en nous. Parce qu'il le faut absolument, hein. Il faut nous exprimer notre également entière dépendance à lui. Seigneur, si ce n'est pas toi qui me le donne, il n'y a personne qui me le donnera. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de cela. Éclaire-moi. Moi, combien de fois, quand Dieu m'a appelé, j'avais une parole de Dieu, et je disais, Seigneur, écoute, il faut que tu me remontres. Hein. Il faut que tu me remontres si c'est vraiment un appel. Si c'est vraiment ce que tu me dis. Remontre-moi, et puis me remontrer. C'est pas l'histoire de la toison, mais presque. Hein, j'étais pas loin de ça. Hein. Mais remontre-moi. Seigneur, il faut que tu me reparles. J'ai même allé voir mon pasteur et lui dire, vous me dites, hein, si je me fais un film, il faut me le dire, je veux plus y penser, je vais même prier pour que ça se revienne plus, parce que je veux pas. C'est important le ministère. On a la responsabilité d'âme, d'église, c'est l'œuvre de Dieu, et on ne doit pas se tromper. Alors, je redemandais, je dis, Seigneur, écoute, tant pis, mais je te redemande encore, faut que tu me le montres, tu me le dises. Jusqu'à ce qu'ils me le disent encore plus fort. Et oui, mais c'est comme ça. Hein. Alors, notre requête renouvelée régulièrement fait naître en nous un désir de plus en plus fort. Et cela eh bien, nous rappelle de plus en plus que nous devons dépendre à 100% de lui. À 100% du Seigneur. Et oui. Alors, nous ne pouvons pas vivre sur les bénédictions d'hier. Formidable, on les a eus, c'est bien, ça nous a marqué. Hein? Nous ne pouvons pas vivre non plus ou dépendre des prières d'hier, eh oui. Alors, comme Paul, eh bien, renouvelons notre demande. Renouvelons. Amen. Dieu seul également peut nous donner ce dont nous avons réellement besoin. Ça, c'est la deuxième chose. Paul dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Si nous sommes enfants de Dieu, ben voilà que le Saint-Esprit vit en nous. D'accord ? Il vit en nous. Mais Il nous faut justement prier que le Saint-Esprit nous accorde, allez, la sagesse. L'intelligence, la sagesse, hein. La sagesse nécessaire, déjà pour comprendre les choses de Dieu. C'est lui qui renouvelle notre intelligence, notre compréhension, quelque part qui nous montre ce que le commun des mortels ne peut pas voir. Et puis il va montrer peut-être quelque chose à quelqu'un, à Hélène par exemple, et pas à une autre, ou un autre. Vous comprenez ? Donc montre-moi Seigneur. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, que Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Je veux connaître le cœur de Dieu. Alléluia. Certains s'imaginent que le fait de savoir les choses, c'est suffisant. Je sais. Je sais. Mais je pense que nous nous trompons par ce faux raisonnement. Le savoir ne peut pas combler le besoin profond qu'il y a dans le cœur. La plupart d'entre nous, nous avons de la connaissance. Amen. Vous lisez la Bible, vous la retenez. Puis vous dites également, quand le besoin se fera sentir, quand il y aura eh bien, quelque chose qui concerne cela, le Saint-Esprit me le remettra en mémoire. Ces choses, c'est vrai, c'est authentique, ça se vit. Hein. Alors, nous avons de la connaissance. Et si la seule connaissance pouvait nous rendre saints, eh bien, nous devrions être des super saints. Et malheureusement, nous chutons. Malheureusement, nous nous ramassons par terre. Prenons la peau de banane. Tant nous avait dit de faire attention avec les peaux de banane. Et puis, voilà. On s'est pris une gamelle, bien sûr. Eh oui. Alors, ce qui est nécessaire, c'est justement cela, c'est que le Saint-Esprit fasse ce que lui seul peut faire, c'est nous accorder la sagesse et la révélation qui donnent vie, justement, aux vérités qui sont en nous. Ces vérités, nous les avons. Amen. Nous les avons. Mais il faut qu'elles prennent vie. Il faut que cette parole qui est en nous devienne vivante. Au point que je veux la désirer plus que tout. Je ne peux pas vivre autrement qu'avec cette vérité que tu m'as donnée, Seigneur. Mais je veux la vivre. Pas simplement la proclamer. Je veux que ça devienne part entière de moi. Eh oui. Autrement, ces vérités qui sont vraiment des vérités demeurent purement intellectuelles. Ils ne prennent pas vie. On est sec. Excusez-moi de terme, mais c'est ça. Hein. Jésus, s'adressant aux disciples, disait « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jean 6, 63. Voilà. Des milliers d'années plus tard, des grains de blé ont été découverts dans la tombe d'un pharaon. D'accord ? Il n'avait pas germé. Il était examiné, il s'est aperçu que ça n'avait pas germé du tout. Tout simplement, ces graines de blé n'étaient pas placées dans les conditions favorables à la germination et puis à la pousse. Hein ? Alors ces graines sont restées sans reprendre vie. Comme la parole que nous avons emmagasinée, justement, dans ce cas, eh bien, nous avons peut-être, à ce moment-là, des têtes qui sont pleines. Ça va faire « aïe ma tête » un jour. Eh oui, eh bien pleine, mais il manque la vie. Il faut qu'il y ait la vie. Il faut. C'est l'Esprit de Dieu qui va rendre vivante la parole de Dieu que j'entends, que je reçois, que j'accepte, que je désire. Elle va prendre vie, c'est l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 17, et moi je le lis dans la version à la colombe. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. C'est la requête même de l'apôtre Paul, le connaître par révélation. Le connaître par révélation. Et c'est par l'esprit de révélation que nous accédons justement à la connaissance, à cette connaissance. En premier vient le niveau de la connaissance intellectuelle, hein, comment Romains chapitre 10 verset 14, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? La raison est simple. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est là. Et dès qu'on en entend parler, l'Esprit de Dieu travaille en nous et nous révèle des choses profondes. Moi, quand j'ai été ébahi, quand j'ai entendu des collègues me dire, des collègues pompiers, hein, à l'époque, hein, me dire, mais moi aussi je prie. Ils me disaient la parole de Dieu, mais ils ne prisaient pas comme moi. Un jour, ils me sortent et ils me disent, tu ne peux pas nous sortir une prière de derrière les fagots? C'était leur façon d'exprimer. C'était quoi cette prière? Ben, qu'il arrive des gros pépins au pasteur, pas au pasteur, au patron. Il y en a, je vais pas prier comme ça, moi. Oh. Vous voyez un petit peu? Eh oui, ça marche pas pour eux. Tiens, un jour, je vous explique après, hein, vous en ferez ce que vous voudrez. Hein. Quand je dis que c'est par révélation, je priais. Je priais pour mes collègues. À la caserne, je ne passais pas un jour où je ne priais pas pour eux. Je priais avant de partir, je priais chez moi, je priais pour eux. Seigneur, sauve-les. Tu m'as sauvé, je n'étais pas meilleur qu'eux. Et puis un jour, en lisant la parole de Dieu, je venais de prier. Ne prie pas pour eux, ce sont des incrédules. Ne prie pas pour eux, je ne t'écoute pas. Purée, Seigneur, ce n'est pas possible. Bon, j'étais jeune converti, hein. Je dis, mais c'est pas possible, Seigneur, tu veux sauver tous les hommes, c'est des hommes. En plus, ils vont secourir les autres. Bon, on va pas leur donner une blague, mais je veux dire, pas plus mal que notre. Pas parfait, bien sûr. Et loin. Mais, Seigneur, sauve-les. Alors, j'ai fermé ma Bible, et j'ai dit, Seigneur, écoute, parle-moi. Je l'ai pas fait souvent, hein. J'ai dû le faire quatre ou cinq fois. J'ai fermé ma Bible et j'ai dit, Seigneur, parle-moi, montre-moi pour qui je dois prier. Moi, je voulais qu'il me sorte un prénom, un nom. Ben oui. Et puis là, je ferme ma Bible. J'avais fermé d'abord. J'ouvre ma Bible. Par le roi, prie pour le roi. Il y en a des rois dans la Bible. Hein. Mais le problème, c'est que je l'entends dans le couloir. Mes collègues qui passent, et ouais, il se prend pour le roi, c'est Louis XIV, c'est le roi par-ci, c'est le roi par-là. Oh, moi, je suis dans le petit coin de ma chambre, là. Je dis, Seigneur, je vais demander. Je vais demander par le roi, prie pour le roi. Et eux qui font ça en passant, là, dans le couloir. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis, là? Et puis, effectivement, alors je dis au Seigneur, écoute, si ça vient de toi, parce que je n'allais pas aller tout droit dans le bureau du patron. D'habitude, je rentrais les poings fermés et c'était la cogne. Hein, on s'est cogné là. Hein. Et oui. Mais là, j'ai dit, Seigneur, écoute, si ça doit se faire comme ça, c'est lui qui me demandera mon témoignage. Écoutez bien, témoignage. Le temps passe. Prie pour lui, bien sûr. Priez pour les autres, toujours, hein, malgré qu'il m'avait dit ne les prie pas pour eux. Hein. Ben oui. Et puis, parce que je les aimais bien, c'est mes collègues, hein, on a vécu des choses ensemble. Et puis, il y a un jour où on présentait Olivier, qui était tout petit, pour vous dire que ça remonte à longtemps. Hein. C'est grand maintenant, Olivier. Et puis, je l'invite. J'ai osé l'inviter. Je crois que j'étais allé signer mes notes, je ne sais plus trop quoi. Et puis, je dis, tiens, on présente mon fils tel dimanche. Est-ce que ça vous dit de venir? Vous êtes invité, hein, voilà. Il y aura un pasteur missionnaire, je ne sais plus trop ce qu'il y avait. Puis on profitait toujours des baptêmes, des voilà. Et puis, voilà. Ah oui, merci, oh, ok, d'accord, bon. Ah oui, je vois où c'est, oui, bon, ça va, très bien. Et puis, la semaine reprend. Et puis, je ne sais plus pourquoi, je me retrouve dans le bureau du patron. Il me dit, au fait, je m'excuse, j'ai pas pu venir, mais vraiment, je serais venu volontiers, il m'explique ça. Il me dit, mais j'ai pas pu, il y a eu un contretemps, et finalement, j'ai pas pu venir. Donc, pour le baptême de ton fils. Alors, il me dit, mais Tu as été baptisé ? Je lui dis, oui, j'ai été baptisé. Mais j'étais, à quel âge ? Enfant. Je lui dis, non, pas enfant. Enfant, c'est du passé, tout ça. Mais j'étais baptisé adulte, à 29 ans. J'explique tout ça. Et puis, il me fait comme ça. Au fait, je ne connais pas ton témoignage. Oh, pétard. Non, mais sérieux ? Moi, je faisais des expériences, là. J'étais jeune converti. Je faisais mes expériences. Et j'ai donné à mon patron mon témoignage. C'est pas beau? Voilà. Alors, je reprends le cours de mon histoire, pas de mon histoire, hein, de Paul, là, cette étude sur la prière, hein. Alors, la requête de Paul, même de l'apôtre Paul, c'est la connaissance par révélation. Hein, c'est ce que je disais. Alors, les Éphésiens avaient, je dirais, le premier niveau. Maintenant, il leur fallait monter plus haut. Et ça, ils venaient le faire, justement, c'était possible par l'esprit de révélation. C'est-à-dire qu'ils allaient accéder au deuxième niveau. Par la révélation, la connaissance qu'ils avaient allait prendre vie. Vous comprenez ? Ça allait prendre vie. Ce deuxième niveau, il est accessible comment ? Par la prière. Par la prière, hein ? La recherche de la présence de Dieu. Parce que même des gens qui sont illettrés, qui ne savent pas lire, eh bien, ils acceptent parfois ce niveau, au deuxième niveau. Hein? Alors que d'autres, je dirais, la tête bien pleine, hautement diplômés, eh bien, peuvent rester justement vides. Il n'y a pas la vie. Eh oui. Alors Dieu nous appelle à cette révélation. Si quelqu'un veut en payer le prix, c'est possible, je vous le dis ce soir. Dieu d'ailleurs le désire pour vous. Amen. Pour chacun d'entre nous. Hein. Alors, moyen pour y accéder, eh bien justement, la prière qui illumine les yeux de votre cœur. Et c'est une prière comme cela qu'il faut formuler. Et c'est le seul endroit du Nouveau Testament où cette expression, les yeux du cœur, est employée. C'est le seul endroit. Le cœur a des yeux. Vous saviez pas ? Le cœur a des yeux. Le cœur ici, c'est pas l'organe que nous avons là. Hein. Bon, il est légèrement de côté, mais il est bien centré. Non, hein. Il est par là. Hein. Non. Le cœur dont il parle là et les yeux du cœur dont il parle là, c'est notre vrai moi. C'est notre vrai moi. C'est là que nous décidons, justement, eh bien, par quelle valeur nous allons vivre. Eh oui. Quelle direction nous allons prendre et comment nous allons nous comporter chaque jour devant chaque situation. C'est là. Donc il dit, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Alléluia. Les yeux de votre cœur peuvent être ouverts ou fermés. Et s'ils sont fermés à la lumière de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous allez trébucher. Vous allez prendre des gamelles, c'est ce que je disais. Hein. Vous allez faire des mauvais choix les uns après les autres. On va adopter, je dirais, des mauvais exemples. On va suivre ce qu'on ne doit pas suivre. On va observer, non pas la parole de Dieu, mais des formules humaines. Vous voyez, mais pas du tout. Hein. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on finit par tomber sur le côté, tomber dans le ravin, dans le fossé. On va commettre erreur sur erreur et on va se retrouver comme cela dans des voies sans issue. Impossible d'aller plus loin. Et c'est vrai que là, nous n'avons pas la vision morale, hein, même si notre vue physique est parfaite. 10 sur 10. Mais quant au raisonnement de Dieu, quant aux valeurs qui sortent de la bouche, de la parole de Dieu, du cœur de Dieu, qu'est-ce que tu en fais ? Imaginons un jeune homme qui a été élevé dans un foyer chrétien. Pendant des années, il assiste à des réunions à l'église. Formidable. École du dimanche, colonie des vacances. Chrétienne, bien sûr. Hein. D'accord ? Groupe de jeunesse, rencontre de jeunesse. Voilà que maintenant, eh bien, il se trouve au lycée. Il commence à prendre ses premières décisions. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas le pasteur. Il n'y a pas le moniteur de l'école du dimanche ou la monitrice. Personne n'est là. Voilà qu'il rencontre une fille, il se met à la fréquenter. Et puis, il ne tarde pas à coucher ensemble. Voilà que les parents l'apprennent. Ils sont furieux. Ils sont choqués. Ils sont préoccupés. Ils se demandent que faire. Alors oui, ils plaident, ils argumentent, ils discutent, ils menacent, ils citent les Écritures. Mais tout cela en vain. Dès que rien n'est fait. Alors où est le problème? Eh bien, les yeux du cœur du jeune homme sont restés fermés justement aux vérités spirituelles de la parole de Dieu. Il sait intellectuellement, mais il ne peut pas le vivre parce que ses yeux, vous voyez, ce moi est toujours fermé, il est toujours bien présent. Vous pouvez pleurer toutes les larmes de votre corps, rien n'y fera. Il y a une seule chose qui peut changer la situation, écoutez bien, Paul prie que les yeux de leur cœur soient ouverts, illuminés par le Saint-Esprit. Amen. Ou comme le dit une autre version, une traduction plutôt, que votre cœur soit inondé de lumière. Amen. Inondé de la lumière d'en haut. Seul le Saint-Esprit peut accomplir cette œuvre surnaturelle. Je ne crois pas, et je peux vous le dire autant que vous voudrez, je ne crois pas aux conversions forcées. Il croit absolument pas. D'ailleurs, la Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est péché. Je crois pas. C'est impossible. Moi, quand on me parlait, quand on voulait me faire entendre des choses que je n'avais pas envie d'entendre, eh bien, je me fermais. Comme tu parlais à un mur. C'est comme ça. Eh bien, là, c'est pareil. Ce jeune homme, eh bien, de l'histoire, bien sûr, c'est une histoire. Quoique, ça arrive. Eh oui. Alors, la prière de Paul, que votre cœur soit inondé de lumière. Et quand je dis que seul le Saint-Esprit peut accomplir cette œuvre surnaturelle, voilà pourquoi nous prions pour nos enfants, nos petits-enfants, nos familles, nos amis, ceux qui sont au loin comme ceux qui sont tout près, parce que nous les voulons au Seigneur. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Vous avez pu vous en rendre compte, bien sûr, qu'au fur et à mesure que vos enfants grandissent, combien petit à petit, vous perdez le contrôle sur eux. Viens ici ! Quand il était petit, ça marchait. Puis quand il est grand, c'est « Viens ici !» Et ça ne marche plus. Alors, nous ne pouvons pas les contraindre à obéir. Ne pouvons pas, bien sûr, c'est impossible. Parce que nous ne pouvons pas contraindre le cœur. Le cœur. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est prier. Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur. Aide-les à voir la lumière. Amen. Aide-les à voir la lumière. Moi, je sais que c'est le meilleur pour lui, parce qu'il est en train de se heurter à tout le monde, il est en train de se faire du mal, de faire du mal autour de lui. Seigneur, éclaire son cœur, les yeux de son cœur, illumine-le intérieurement pour qu'il voit, pour qu'il sente qu'il y a quelque chose de mieux et de plus grand que ce qu'il vit en ce moment. On en voit qu'ils se débattent tout seuls dans leurs problèmes. Hein. Alors, si nos jeunes, nos moins jeunes, par exemple, couchent ensemble, si ça donne justement la boisson, s'ils se trompent, sont rebelles, sont pas motivés, sont là que, il y a bien sûr des symptômes d'un mal qui est plus profond, c'est cela, bien sûr, c'est qu'ils ne se sont jamais engagés personnellement. C'est que leur cœur, ou les yeux de leur cœur ne sont jamais ouverts sérieusement avec le Seigneur Jésus. Il n'y a pas eu cette rencontre personnelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est pas trop se préoccuper des symptômes. Il vaut mieux plutôt agir à la racine. Ouvre les yeux de leur cœur. Fais-le, Seigneur. Et quand Paul, le rebelle, lui, a été frappé par la lumière sur le chemin de Damas, il a dit, vous vous rappelez ce qu'il a dit? Qu'il était aveugle. Que veux-tu que je fasse? Et c'est là que ça change. Hein. Alors le résultat, c'est afin que vous sachiez. En priant pour eux, Paul a trois choses précises en vue. Et c'est le résultat lorsque leurs yeux, justement, inondés de la lumière, verront. Première chose, tout ce que Dieu nous a donné. Au début, j'en ai parlé. C'est justement quelle espérance, à quelle espérance il nous a appelé au verset 18, déjà en français courant. Il s'agit ici de tout ce qui nous est réservé au moment justement de notre conversion. Ce n'est pas quand on sera dans le ciel. Mais déjà la conversion. Alors ce qui nous appartient à nous, depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Au verset 4, Dieu nous a élus en Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Jésus, c'est mon frère. Ensuite, verset 5, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Alléluia! Je fais partie de la famille de Dieu. Également, verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce. Alléluia! En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. C'est fini le péché pour moi. J'ai été pardonné. Ne laissez pas revenir. Vous avez prié pour être délivré de ce péché. Vous lui avez tourné le dos. D'accord? N'acceptez pas que ça revienne. N'acceptez pas que l'accusateur des frères prenne le dessus sur ce que le Saint-Esprit veut vous faire comprendre. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon, c'est fini. Et même s'il me dit que ce que je fais n'était pas bien, c'est le passé. C'est fini, c'est le passé. Amen. Également la sagesse, l'intelligence, au verset 8 et 9, ainsi que la connaissance de sa volonté. Je peux connaître la volonté de Dieu. Mais il faut que j'y aille comme un petit enfant. Si j'y vais avec toute ma connaissance, caboche bien pleine, et avec des arguments bien précis, Seigneur, c'est impossible, parce que j'ai déjà essayé. Mais si j'y vais comme un petit enfant, à qui Dieu dit, allez, mets un pied après l'autre et avance. Je dis, ok Seigneur, tu me tiens par la main. Oui, t'inquiète pas, je te tiens par la main. On ne fait pas ça avec nos enfants. Quand ils sont tout petits, après ils grandissent, ils ne veulent plus la main. Hein. Et oui, surtout qu'il y a des copains qui arrivent, hop. Et oui. Alors sagesse, intelligence, ainsi que la connaissance de sa volonté, et au verset 13, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est fait. Amen. C'est fait. Et tout cela est à nous. Nous sommes riches. Nous sommes, je dirais, au-delà de toute mesure, enrichis par le Seigneur. Et Paul prie pour que nous sachions combien riches nous sommes déjà. Il faut nous demander, hein, donne-moi. Ouais, c'est une chanson, je crois. C'est Enrico Macias, je crois. Hein. Ouais. Eh oui. Alors, Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, pardon, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et ça dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Aller au ciel, c'est plutôt aller vers quelqu'un. C'est rencontrer le Seigneur. Amen. Par exemple, quand nous retournons chez nous après un voyage, eh bien, la joie que nous avons rentrée à la maison, c'est pas la joie de retrouver, je ne sais pas, le canapé, peut-être, parce qu'il est bien, hein. Mais c'est pas retrouver, je ne sais pas, la cuisine, la salle à manger, le petit plat qui m'attendait. Non, c'est pas ça. C'est la joie de retrouver qui? Nos bien-aimés. Amen. Nos bien-aimés. Alléluia. Alors, ce ne sont pas, je dirais, les rues pavées d'or, ni le fleuve de la vie, mais c'est Jésus lui-même que nous allons retrouver. Amen. C'est lui. Dernière chose, et je conclue. Il est long ce soir. Hein. Oh, pétard. Qu'est-ce que tu as fait de me laisser la parole hein? Non. Alors, quelle est la troisième chose, c'est ça. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? La puissance de Dieu. Ça ne vous est pas arrivé de dire, ça, le Seigneur, il ne pourra pas. Hein. Il ne pourra pas. Alors, cette puissance, c'est quoi? Eh bien, c'est la dynamite de Dieu. Elle est infiniment puissante. Elle est en puissance inégalable. Alléluia. Cette puissance, elle a éclaté quand? Quand Jésus-Christ est mort à la croix. Quand Jésus est mort. Amen. Et celui qui vit en nous. Parce que c'est ça, on y est maintenant. Il vit en nous. Lui, il possède la plus grande puissance de l'univers. Alléluia. Et tu dis, je suis faible, je suis petit, je suis timide, j'ose pas. Mais il est en toi. Le plus puissant, le tout puissant, le plus grand que la terre ait connu, il est en toi. Amen. Dieu, le Père, l'a fait asseoir au-dessus de toutes les forces qui existent, de tous les noms qui peuvent être nommés, et toutes choses sont sous les pieds de Jésus. Amen. Alors, si vous marchez, écoutez bien, si vous marchez avec Jésus, vous n'avez plus rien à craindre. Hein? Eh bien oui, on n'a plus rien à craindre. Quand vous avez les regards tournés vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez toute la misère humaine. Vous voyez l'ennemi. Mais cette fois-ci, vous dites, il est sous les pieds de Jésus. Il ne peut rien. Il ne peut rien contre moi. Amen. Et vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Amen. Et notre prière, ce qui doit devenir votre prière, c'est « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois comme toi tu vois. » Amen. Que je vois comme tu vois. Ce n'est pas la résurrection de Lazare que le Seigneur a dit, je ne te prie pas pour moi, mais je te prie pour eux, afin qu'ils sachent et qu'ils voient. Hop, résurrection de Lazare, Lazare sort. Le Seigneur n'a pas de doute, lui. Hein? Eh bien, nous, il faut que ça devienne pareil. Amen. Non pas comme les hommes voient, mais que ta lumière inonde mon cœur pour que je puisse discerner ta volonté, tes désirs, faire Seigneur, ce que toi, tu attends de moi. Vous voulez aller plus loin avec le Seigneur? Hein, je vais laisser la place à Hervé. Mais je veux dire, il y a un prix à payer. Ça coûte. Il faut quelque part le désirer plus que tout. On voit quand, par exemple, on désire un objet, on désire quelque chose, on se donne les moyens, hein. C'est pas vrai? On ne se donne pas les moyens? Des fois, on fait même des caprices. Pas vrai? Eh oui. Alors, Seigneur, je désire vraiment te connaître de mieux en mieux. Amen. Peut-être je vais le dire comme ça au départ. Seigneur, révèle-moi ton cœur, ta volonté pour ma vie. Ouvre les yeux de mon cœur. Alléluia! Que nous ayons une intimité forte. Amen. Gloire à Dieu.